Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va continuer la causerie, si vous voulez bien. J'essayerai d'être plus bref pour que vous puissiez faire une rétroaction et que vous puissiez discuter. En gros. Donc, alors après les opiacés, le dérivé de l'opium, hier on a vu les opioïdes, c'est-à-dire des substances qui avaient les mêmes propriétés que les opiacés, mais leur grande caractéristique, c'est justement d'être produites par le cerveau, c'est-à-dire par nous-mêmes, finalement. Et donc, on a vu un petit peu le mécanisme d'action, finalement, qui est centré autour d'un neuromédiateur très particulier, qui est la dopamine. Et puis, bien entendu, beaucoup d'autres types de neurones viennent réguler tout un tas de choses. Donc on a eu un petit aperçu, si vous voulez, de comment ça pouvait permettre d'obtenir ces états proches de ceux que donne la morphine et d'autres stupéfiants, en quelque sorte. Donc c'est un modèle, en somme. Alors maintenant, on va passer à un troisième problème, qui est celui des addictions. Alors je parle au pluriel parce que pendant longtemps on a pensé que l'addiction était typique de certaines substances qu'on appelle donc les stupéfiants, et puis peu à peu les faits cliniques et puis l'évolution de notre société quand même, vous allez voir, là on va faire surtout de la sociologie, donc les études sur le terrain ont montré qu'il y avait des conduites comportemental qui faisait penser étrangement même chose que la prise de substances chimiques stupéfiantes. Voilà, et donc ce sont des conduites addictives, et donc aujourd'hui je donne un peu comme objectif d'abord d'en donner une définition, celle qui est acceptée, et puis ensuite d'en faire un inventaire, un peu sommaire bien sûr, parce qu'alors c'est une véritable bouteille à l'encre et qui mérite bien un cycle suivant probablement, mais enfin bon. Et puis derrière, eh bien, j'essayerai de dire deux ou trois choses d'une explication de mécanisme de ces addictions particulières. Et donc l'ensemble se rejoint entre les stupéfiants d'une part et puis ces conduites addictives conduisent à en quelque sorte une capitulation de l'individu qui devient complètement dépendant et en train de toujours rechercher à tout prix soit la substance, soit la possibilité d'exercer cette conduite addictive. Voilà, donc en gros, j'essaie de voir ça. Donc tout d'abord, essayons de définir qu'est-ce qu'on entend par addiction. Donc déjà c'est un terme qui est très très ancien, parce que tout simplement c'est une idée forte qui nous vient justement du monde romain. Finalement le latin avait un terme, addicere, je crois, qui veut dire dit appartenant à quelqu'un. Voilà, et ça définit un esclave, en gros. C'est-à-dire, pour différentes raisons, quelqu'un qui a été vaincu ou quelqu'un surtout qui est criblé de dettes ne peut plus honorer ses engagements, alors à ce moment une autorité militaire et judiciaire décide d'attribuer cette personne à son créditeur, là, en quelque sorte, c'est-à-dire bon débiteur, à son créancier, plus exactement. Voilà. Et que donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la prise par corps. C'est-à-dire, bon, il est possédé, il est dépossédé de lui-même, et il doit, en quelque sorte, obéir à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, de sujet, il passe à objet, tout simplement. Quoi. Voilà, c'est un meuble, on le vend, on le fait se reproduire, et ses propres descendants deviennent des esclaves. Enfin, vous connaissez le processus. Voilà, alors, donc ça veut dire qu'il perdait son nom et il était appelé comme appartenant à quelqu'un d'autre, voilà, addicere. Et puis, le terme a un petit peu bougé, et puis ça a donné le terme, on va dire en vieux français, qui a repris le latin, en gros, et c'est addictus, qui donne la même idée. Au Moyen-Âge, entre autres, on retrouve des textes où on parle de quelqu'un d'addictus, et en fait, en règle générale, c'est au cours de, là aussi, de conflits, de conflits armés ou pas, ou de, en tout cas de dettes d'un personnage important, et qui ne peut à nouveau pas faire face à ses échéances, et à ce moment, la personne qui a main sur lui, donc exerce la prise de corps, là aussi, et il devient taillable et corvéable à merci. Et puis, l'ancien français a donné le normand, les normands sont allés faire du tourisme en Grande-Bretagne, et c'est les britanniques qui ont repris ce terme, qui les intéressait bien, et progressivement, ils ont redonné une version nouvelle, addiction, et à propos des substances stupéfiantes qui rendaient vraiment bien cette idée de prise de corps, prise du corps, quoi, en quelque sorte, corps et âme, hein, on peut presque dire, jusque-là. Et puis de l'anglais qui donc se préoccupait de la question de la consommation des drogues, en somme, on est revenu au français, donc le retour à l'origine en quelque sorte, et donc comme je vous ai dit, il y a eu cette évolution. Au début on pensait que la consommation de drogue était une manie, donc une toxicomanie, et puis ensuite on a dit c'est une toxicodépendance, une dépendance, c'est-à-dire on est esclave de, enfin en tout cas dépendant, on va dire, de la substance. Et puis progressivement, du fait qu'il y avait beaucoup de comportements ou de conduites qui évoquaient cruellement la même chose qu'avec les drogues, on a dit mais c'est plus général. Alors c'est pas encore tout à fait stabilisé comme concept, mais c'est accepté depuis, on va dire, à peu près l'an 2000 en France, où les systèmes de soins et même la police et autres utilisent ce terme générique qui permet de mieux comprendre le phénomène. Et si on le comprend mieux, ça laisse entendre qu'on va avoir des solutions peut-être un peu plus efficaces que celles qui régnaient jusque-là, tant que c'était des fous. Bon, ça n'a pas été très efficace pour les soigner. Quand ils sont malades, ça l'est, oui, mais la police a ses réglementations comme quoi il faut pourchasser les stupéfiants et les gens qui les consomment et les gens qui les vendent. Donc forcément, c'est pas tout à fait. Et vous en avez des échos tout le temps. Hein, la salle de shoot dont on parlera la semaine prochaine, réactive toutes ces difficultés, c'est-à-dire il n'y a pas moyen de soigner en dehors d'un règlement un peu militaire, quoi, hein, donc, et c'est contradictoire. Voilà, donc c'est un enjeu très important. Alors, si vous voulez, les choses viennent surtout d'Amérique, là, par rapport à ces questions, et je vais vous donner un auteur qui s'appelle Goodman, qui a un petit peu systématiser la définition de l'addiction, et je crois que l'essentiel, donc c'est Goodman, et l'essentiel a été repris dans un manuel de psychiatrie américain qui s'appelle le DSM-4 actuellement, le 5 va sortir. Il y a beaucoup de polémiques, mais laissons les polémiques tranquilles pour l'instant, et essayons de voir qu'est-ce qu'il en est pour définir cette addiction. Alors, cette addiction, eh bien, elle comporte 5 items qui sont là obligatoirement, et puis un 6e qui lui est un petit peu moins stable. Ce 6e comporte 9 articles, et pour décider s'il y a addiction ou pas, il faut qu'il y en ait au moins 5 sur 9 qui soit présent. Voilà, donc ça fait les cinq premiers plus cinq, donc ça fait dix critères en gros, avec donc des possibilités de modulation, et vous allez reconnaître tout de suite ces définitions qui concernent aussi bien quelqu'un qui fume des cigarettes que quelqu'un qui, de façon excessive, je veux dire, hein, jusqu'à un demi-paquet, on considère que c'est pas trop, un peu trop, mais enfin bon, c'est possible de résister. Ou bien l'alcool, là aussi, de façon raisonnable, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez dépassé les trois verres par jour, là, bon, ça frôle le trop. Et puis, bien sûr, l'héroïne, la cocaïne et tout le reste, tout comme tout un tas d'autres comportements. Donc voilà, je vais essayer de vous les donner. Dans l'ordre, donc, l'addiction se résume à l'impossibilité de résister à la pulsion, aux impulsions à réaliser ce comportement de fumer, par exemple, ou de boire, et de boire peut-être n'importe quoi, hein, c'est-à-dire tout ce qui est alcoolisé, etc. Ou bien d'autres comportements que vous allez reconnaître peu à peu. Parce que bien entendu, il y a un gradient entre ce qui est toléré et qui est tout à fait sain de faire, et puis quand ça devient répétitif et qu'on perd absolument tout autre objectif dans l'existence, quand donc votre existence se réduit à simplement rechercher le produit ou rechercher la conduite à assouvir, c'est sûr qu'il y a malaise. Deuxième critère, c'est sensation croissante de tension précédant juste le début de la conduite, du comportement ou de la prise de la substance. Voilà, c'est-à-dire qu'on sent la pression qui est de plus en plus forte, donc c'est très difficile de faire marche arrière. Le troisième critère, c'est le plaisir ou soulagement pendant la durée de la conduite ou pendant la durée de la prise, quoi. Voilà, c'est-à-dire finalement le temps de fumer une cigarette, ça va à peu près, ou de boire un siffloter un verre, ça va, puis après, la même, s'il vous plaît, quoi, hein, voilà, c'est typique, quoi, hein. Sinon, et donc du coup, cette tension, elle était suspendue pendant la prise de la boisson, et puis on dirait que sitôt avalée, hop, ça se dissipe et la tension revient tout aussi forte, d'où la récidive. Ensuite, c'est la sensation de perte de contrôle pendant le comportement, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire, une fois que c'est enclenché, il n'y a plus tellement moyen de faire marche arrière. Et enfin, le cinquième élément, c'est la durée du syndrome pendant un mois ou plus. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas simplement une soirée de beuverie, c'est que ça dure très longtemps, un mois durant. Voilà, alors ça, tous ces éléments peuvent être présents, et en plus, il faut qu'il y ait la présence de 5 critères sur 9 qui soient là. Alors, voyons ces critères. Donc, première chose, préoccupation fréquente au sujet du comportement ou de sa préparation. Voilà, c'est-à-dire il y a une sorte de fébrilité, il y a une obnubilation, comme je disais hier à propos du rat dans sa cage qui s'autostimule, hein, c'est-à-dire ça devient frénétique. Deuxième critère, l'intensité et la durée des épisodes plus importantes que souhaitées à l'origine. Voilà, c'est-à-dire on a un plan et puis finalement on pensait juste faire comme la fois précédente, et puis en fait on dépasse, aussi bien en intensité, en dosage, ou bien en durée en quelque sorte. Et là, ça veut dire que le sujet a perdu le contrôle vraiment de ce qui se passe. Troisième critère, donc là vous en choisissez par rapport à ce que vous connaissez comme comportement, hein. Tentative répétée pour réduire, contrôler ou arrêter ce comportement. Voilà, c'est-à-dire, le sujet est tout à fait conscient. Voilà, pendant longtemps, on dit, oh, ben, il est malade, mais il n'est pas conscient. Ben si, il est parfaitement conscient, il sait absolument le risque qu'il court. La meilleure preuve, c'est ce qu'on voit sur les affiches publicitaires, hein, ou faire un McDonald's, ou Coca-Cola, ou quelque chose d'approchant, une avalanche de frites, et puis on vous met, attention, vous mangez 5 légumes et fruits variés, faites attention, ni sucre, ni sel, ni gras. Ou bien l'autre versant, c'est fumez-tu? Bah oui, la bonne blague. Fumez-tu? Oh, bah, tiens, comme c'est bizarre, c'est ma première fois que je vois ça. Bon, donc, il est tout à fait conscient, il sait qu'il va à sa perte, mais droit dans le mur, parce que, bon, il a plus sa capacité de jugement, il juge, mais il sait que c'est plus fort que lui. Alors, quatrième point possible, hein, sur les neuf, là, qui restent, le temps important consacré à préparer les épisodes de ses conduites, là, à les entreprendre, ou bien s'en remettre, voilà, et dans les cordes à la sortie, hein, il n'en peut plus. Donc voilà, ça fait du temps pendant lequel il ne peut absolument rien faire d'autre, pas même penser à ce qui s'est passé, ni même rêvasser, ni même méditer en quelque sorte. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il est accaparé complètement. Cinquièmement, survenue fréquente des épisodes lorsque le sujet doit accomplir des obligations professionnelles, scolaires, familiales ou sociales. Voilà, c'est-à-dire, finalement, ça tombe toujours mal, en gros. Hein. C'est-à-dire, on ne choisit pas les vacances pour se défoncer. Non, non. C'est justement la veille du bac. Hein. On se fait une biture tous les diables. Vous connaissez ça, hein. C'est... Bon. Alors là, les parents d'adolescents, là, sont tout à fait bien au courant de cette histoire, quoi. Vraiment, c'est... demain, j'ai une audience de tribunal, ou bien un entretien d'embauche, patatrac, entre-temps, bon, voilà, la cata s'est déroulée. Alors c'est pareil pour la profession, c'est pareil pour les études, c'est pareil pour la famille, hein, il y a un mariage, il y a je sais pas quoi, un baptême ou Noël, ou je sais pas quoi, ben vous pouvez prendre toutes les situations, c'est toujours pan dans la cible, hein, crac. Ou bien, au point de vue social, c'est jamais le bon moment. Sixièmement, possibilité d'activité sociale, professionnelle ou récréative majeure, sacrifiée du fait du comportement. Hein, c'est-à-dire, bon ben, un petit peu comme si la personne se mettait en état d'échec par rapport à ses obligations sociales ou familiales ou professionnelles ou je ne sais quoi. 7. Perturbation du comportement, bien que le sujet sache qu'il cause ou aggrave un problème persistant ou récurrent social, financier, psychologique ou physique. Voilà, alors bon, c'est vraiment un fourre-tout, mais c'est ça, quoi. Hein, je sais pas, l'idée qui me traverse l'esprit, là, pour illustrer ça, c'est que, bon, j'ai besoin de poudre, je sais que ça coûte 100 euros, bah, qu'à cela ne tienne, je vais piquer dans le portefeuille de la grand-mère, hein, ou je sais pas quoi. Ça, alors là, il sait très bien qu'il y a très peu de revenus, mais hein, ça rentre pas en ligne de compte. Huit, tolérance marquée, besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence pour obtenir l'effet désiré, ou diminuer l'effet de mal-être procuré par un comportement de même intensité, en quelque sorte. Hein, voilà, c'est-à-dire, bon, ça on l'a déjà évoqué avec les stupéfiants, hein, il y a la dépendance, mais il y a aussi la tolérance. Cette tolérance, c'est que, bien sûr, pour l'expliquer d'un point de vue physiologique, c'est qu'il y a des mécanismes régulateurs qui font que Par exemple, par rapport aux substances, il y a des enzymes qui viennent démolir avec plus d'énergie cette substance, qui l'attaque en quelque sorte. Donc du coup, vous prenez la même dose, au bout d'un certain temps, cette dose ne suffit plus pour obtenir le même effet. Donc vous êtes obligé, donc, pour avoir le même effet, il faut augmenter la dose. Et on a la même chose avec les comportements, c'est qu'il faut toujours plus de... Je veux dire, prenons un exemple, hein, vous pouvez jouer au tiercé, ben vous jouez un euro, ou deux, ou trois, et puis une fois que vous avez commencé à jouer, ben après c'est 10 ou 20 ou 30, et puis quelques années plus tard, c'est 100 ou 300 ou 500. Quoi. Voilà, c'est ça l'escalade hein, d'éléments, même si vos revenus n'ont pas changé, quoi. Vous dites, ben, oui, mais je vais me refaire, je vais tenter le diable, quoi. Et enfin, dernier, qui est aussi très, très typique, c'est une agitation et une irritabilité chez le sujet lorsque le comportement ne peut pas se dérouler. Voilà. Que même, de toute façon, il y a même les perspectives que ça sera impossible de le réaliser. Alors là, on n'en peut plus. Alors, effectivement, les policiers, dans les années 70, utilisaient beaucoup ces éléments-là, en mettant les sujets en cage, en quelque sorte, et là, très vite, ils savaient si la personne était dépendante ou pas, bien sûr. Voilà, donc là, voilà, sur cette liste de 9, il suffit qu'il y en ait 5, et si vous avez les 5 premiers plus que les plus 5 autres dans cette liste, eh bien, à ce moment, on peut dire que ça, c'est une addiction. Alors, bien entendu, la méthode est un petit peu mécaniste, hein, un petit peu, bon, elle est comportementaliste, c'est-à-dire on ne se soucie pas de faire des différences entre les sujets, les situations et autres, mais ça peut venir après, mais là, voilà, on a des critères pour dire, là, la personne a des conduites addictives, alors, soit face à une substance, soit face à des comportements. Donc maintenant, si vous voulez, une fois que ces critères sont à peu près... réunis, ben, on peut essayer de faire l'inventaire de ces conduites addictives qui vont se raccrocher facilement à ces questions. Alors, donc là, ben, j'ai un petit peu fait la liste des conduites qui peuvent conduire aux addictions. Alors, bien entendu, c'est pas... Il y a toujours une limite entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Hein. Là, c'est lorsque l'on est dans l'excès, d'abord, et puis deuxièmement, dans la répétition, sans raison autre que d'essayer d'obtenir toujours plus de plaisir, et puis avec le corollaire ben, d'une sorte d'aliénation du sujet par rapport à sa vie autre. Hein. Alors d'abord, il y a, comme j'ai un petit peu évoqué, l'histoire des besoins vitaux là dans notre hier hein, dans notre animal les rats là en l'occurrence dans leur cage qui s'auto-stimulaient ils en perdaient les besoins vitaux voilà et donc forcément on retrouve la même chose et c'est en ça que ces expérimentations sont vraiment une préfiguration de ce qui se passe chez l'homme donc la première chose c'est bien entendu l'alimentation. Je crois que déjà Molière le disait, hein, qu'il fallait bien manger pour vivre, non l'inverse. Donc, forcément, par rapport à la nourriture, il y a ce qu'on appelle des troubles des conduites alimentaires. C'est donc les TCA. Là, donc, et bien entendu, elles sont assez contrastées, mais ça revient un peu au même, de manger de façon gloutonne. À ce moment, on appelle ça la boulimie. Hein, c'est boule, je crois, ça vient du bœuf qui n'arrête pas de manger, qui en plus rumine. Hein, enfin, bon, il y a vraiment un fait de pas tellement regarder la qualité de la nourriture, mais la quantité est primordiale. Il faut se remplir en quelque sorte. Et puis, son opposé. Qui est vraiment la figure négative de cette boulimie, c'est l'anorexie mentale et autres, qui donc là questionne aussi, les deux questionnent, et ce que l'on peut dire succinctement, après on peut analyser un tout petit peu plus en détail, c'est que certaines personnes passent de la boulimie à l'anorexie et inversement, et que donc c'est très très éprouvant, bien entendu, et la conséquence, elle est aux deux bouts, là. Pour la boulimie, c'est que la plupart du temps, ça se traduit par une obésité, et puis l'anorexie, eh bien, ça se traduit par un amaigrissement assez infernal, et cet amaigrissement, bon, ce sont bien souvent des jeunes filles qui sont justement pubertes, ou juste à la puberté, et qui donc leur poids descendant sous 35 kilos, les règles sont arrêtées, et que bon, bien sûr, on peut l'interpréter comme étant justement une difficulté à entrer dans la vie sexuelle d'une femme, quoi, en quelque sorte. Et si ça continue encore, la personne mange de moins en moins, et à ce moment, elle peut mourir, bien sûr. Et donc, à ce moment, à un certain seuil, le monde médical se doit d'intervenir dans son code déontologique. Et donc, du coup, elles sont hospitalisées. Et puis, voilà. Donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de difficultés de ce côté-là. C'est assez incompréhensible. Ça amène beaucoup d'interprétations, peut-être plus ou moins oiseuses. Mais bon, on y reviendra. Alors, on ne peut pas parler de boulimie sans parler quand même un petit peu d'une nourriture de plus en plus frelatée, pour pas dire une nourriture industrialisée. Et là, je crois que tout est fait par les groupes agroalimentaires pour rendre l'ingurgitation de nourriture absolument addictive. C'est-à-dire, on charge en sucre, en sel et en gras. Et donc, à partir de ce moment-là, ça dépasse complètement les consommateurs. Voilà, alors, deuxième pilier de la biologie, hein, c'est à côté de l'alimentation, c'est bien sûr la sexualité. Et ben là aussi, alors ce n'est pas la sexualité qui est visée, mais ce sont des sexualités compulsives. Voilà, alors bon, on parlera en plaisantant, là, notre cher DSK est une belle illustration. Si ça tombe toujours au bon moment, là, juste au moment où il va être candidat. Enfin, là, on commence à avoir déjà 4 ou 5 items là, de Goodman, là, le bonhomme, hein, ça veut dire, hein, l'homme bon. Là, c'est gratton, là, surtout que... Quand il y a une réunion du FMI qui va parler de la Grèce, c'est l'enchaînement là, avec la boulimie, mais enfin bon, c'est plutôt ce genre de comportement que simplement une sexualité ordinaire, on va dire. Mais bien entendu, ça dérive très vite, et on entend par là tout ce qui se passe par Internet. Donc les sites porno, entre autres, pédophiles, et puis même sous couvert de communication, une sexualité débridée donc en gros, avoir une sexualité sans toucher le partenaire, mais enfin bon, tout un tas de choses qui dépassent un petit peu l'entendement, mais les descriptions qui en sont faites... Il y a quand même beaucoup de perversions là aussi. Hein. Il y a de quoi dire. Hein. Alors bien entendu, si on reste sur la biologie, bien sûr il y a toute une dimension du soin au corps. Alors bon, toutes les semaines on a des scandales, hein, donc vous allez pouvoir faire votre marché, hein, pour illustrer, aucun problème. Hein. Alors, bon, je prends par exemple quelque chose, c'est-à-dire soin du corps, c'est bon, il n'y a pas de raison d'être bedonnant et d'être flappy ou je ne sais quoi. Ben alors, on fait du culturisme, quoi. Hein. C'est, bon, il faut avoir les tablettes, il faut avoir les biscottos. Et alors, le gag, c'est que Les femmes s'y mettent aussi, parfois. Et donc derrière, bon, alors ce sont les salles de culturisme, et donc les salles de sport. On fait de la fonte, en quelque sorte, toute la journée. On passe son temps à faire des exercices. Bon, vraiment là, je veux bien, mais... Bien entendu, le corps regimbe à ce moment, et la conséquence, ben, c'est que... il y a un petit peu des entorses qui sont faites, quoi, et que donc on a des tendons qui claquent, on a des muscles aussi, etc. Et pour passer outre, ben, on a recours aux drogues, quoi, hein, bon, ce qu'on appelle le dopage, quoi, en gros, parce que ça repousse la limite de la souffrance, et donc on continue. Donc voilà, c'est donc cette espèce de moi-peau qui devient une ceinture musculaire et qui donc là aussi pose la question de l'image du corps qui peut être, qui peut émaner. Bon, alors peut-être qu'ils ont beaucoup plus de succès, mais enfin bon, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de succès auparavant, et donc du coup c'est la case d'avant, hein. Bon, voilà. Alors bien entendu, ça c'est plutôt les hommes qui sont visés, mais bien sûr les femmes aussi, ils ne sont pas indemnes, quoi, hein. Alors qui, le nez, les oreilles, puis surtout un peu plus bas la poitrine, alors là, bon, Pipe est la plus célèbre, hein, il y a même le procès en ce moment, hein, PIP, là, mais bon. Alors le gag, c'est qu'on a des reportages presque tous les jours, et que tout récemment, j'en ai vu un qui était finalement sur ses prothèses mammaires, et qui était faite par des. Enfin, qui concernait des infirmières et même une chirurgienne qui, il y a un an et demi, s'est fait mettre des prothèses mammaires de Jean-Claude Masse, quoi. En gros, c'est-à-dire, bon, sachant tous les soucis, ben, elle a quand même craqué. Enfin, c'est pareil que le paquet de clopes où c'est marqué « fumais-tu ?» Ben oui, on sait que c'est dangereux, que ceci, que cela, mais... n'empêche pas du tout de consommer, en quelque sorte. Et pour quoi faire? Bon, ben pour finalement répandre des silicones. Donc, bon. Et puis, bien entendu, c'est les autres parties, quoi, les fesses, et puis les mollets, les cuisses, les je ne sais quoi. Et puis ensuite, c'est l'orthodontie, et puis tout le reste, quoi. Enfin, bon, c'est-à-dire, là aussi, on voit que la condition du corps humain devient un ensemble de pièces détachées qui peuvent être échangeables. Je veux bien être ringard, mais il y a vraiment une désacralisation du corps humain, quoi, là, qui est quand même colossale, incroyable. Bon, voilà, c'est... Alors, bien entendu, si on est un petit peu plus sur une tranche d'âge qui là aussi tourne autour de l'adolescence, alors il faut appartenir à des clubs, à des clans, à des tribus, à je ne sais quoi. Donc non seulement il faut avoir tel type de vêtements, tel type de cartable, quel type de je ne sais quoi, de smartphone, je suppose, de iPod, pardon, mais en plus il faut avoir l'uniforme, et l'uniforme ne suffit plus, il ne suffit pas d'être en jean ou en je ne sais quoi, Happy Kitty ou je ne sais plus quoi, là, quelque chose dans ce goût-là. Mais en plus, il faut marquer le corps. Alors bon, vous me direz, on redevient dans une civilisation primitive, hein, où les rituels font que on va faire des scarifications, faire même des plateaux, on va même mettre des colliers, on va mettre beaucoup de choses. Donc là, on n'a pas encore tout à fait là. On s'arrête pour l'instant juste à deux choses. Les scarifications dans certaines catégories, et puis, alors bon, maintenant, alors je vous donnerai une image tout à l'heure là de ces adolescents, il y en a beaucoup qui donc se retrouvent pour certaines à Bordeaux chez Pomereau, et là je vous recommande un ouvrage, c'est nosados.com. Il est vraiment bien, il y a beaucoup d'images, et alors là on apprend que les jeunes adolescents appellent ces scarifications mon code barre. Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est l'identification exactement comme un paquet de savonnette, vous passez devant la caisse, ça fait ding-ding, hop, boum, hop, c'est le jackpot. Alors bon, on se clarifie à tour de bras. Bon, alors, les tatouages, c'est encore dans la même série, et puis enfin, les piercings, ben, là aussi, c'est assez étonnant, quoi. Alors bien entendu, tatouage, piercing, scarification, ben, interdisent le don du sang. Alors bon, je leur jetterai pas la pierre, hein, mais enfin, ça veut dire qu'on s'exclut du reste de l'humanité. On veut bien pomper éventuellement du sang en cas de pépin, mais ça bloque la possibilité d'en donner. C'est-à-dire, bon, là, c'est sûrement, probablement lourd de sens, quoi. Hein. Alors, tout simplement parce que les risques d'infection, que ce soit le sida, le virus de l'hépatite ou de je ne sais quoi, je suppose que c'est ça, mais bon, c'est... Alors, peut-être, oui, j'aurais peut-être dû mettre le sport intensif, tout de suite, après culturisme, ça serait bien. Là, alors, là aussi, hein, le sport, c'est vraiment bien. Mais c'est bien tant que ça reste amateur. Que ça reste amateur, amateur, je veux dire. Pas les faux amateurs qui deviennent des amateurs professionnels, qui donc, finalement, se dopent autant, si ce n'est plus, que les professionnels. Hein. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui... Alors là, ça dépasse l'entendement, c'est-à-dire ils aiment tellement ça qu'ils en sont complètement addicted. Et c'est important, c'est intéressant, je reviendrai peut-être dessus, on pense aux joggeurs, par exemple, là, ceux qui pratiquent le jogging, qui donc, pour s'endurer, pour faire tout un tas de choses, vous les voyez courater comme des garennes. Mais où ça? Alors pas du tout dans les garennes, pas du tout, mais en bordure d'autoroute. Alors là, vraiment, là, c'est au steak. Hein. Alors, vous alliez courir au parc de la Tête d'Or ou à Paris, ça, alors j'applaudis. Mais alors, en bordure d'autoroute, ou bien là, sur les quais du Rhône, là, vraiment, il faut être fou, quoi. Ben, ça veut dire que, oui, ben, fumer-tu, peut-être, mais de toute façon, courir-tu aussi, hein, ça, c'est bien net. Alors, c'est pas les voitures qui les tuent, mais c'est vraiment ce qui respire, quoi. Alors, quand vous savez ce qui balance, les diesels et autres, alors maintenant, il n'y a plus trop de plomb, mais c'est le benzène qui a remplacé, bon, il faut vraiment que ça soit... Comme on dit là-bas, un pois chiche, hein, à la place du cerveau, quoi. Ça, c'est bien net. Hein. Bon, et alors, là non plus, je ricane, mais c'est quand même bien typique que les gens qui s'entraînent, eh bien, se mettent en état de stress. Voilà, pour rejoindre ce que je disais hier, quoi. Et que cet état de stress, immédiatement, engendre une production industrielle d'encéphaline et d'endorphine. Et que donc, du coup, bon, ils ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils recherchent, et qu'effectivement, ils se shootent à l'exercice physique qui, les mettant en état de stress, ipso facto, déclenche des tonnes d'encéphaline, et donc c'est de la morphine. Et que donc, du coup, ben, là aussi, c'est important de réfléchir à ça et d'en le prendre en compte. Vous avez un coup de mou, ben, il n'y a qu'à faire un jogging, hein, et vous allez voir, vous allez être un petit peu épuisé, et à ce moment, vous allez ressentir une euphorie incroyable. C'est-à-dire qu'il y a finalement, quand on a le temps et la santé, il n'y a vraiment pas besoin de prendre des antidépresseurs. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre de l'héroïne, ni de la morphine, ni rien, parce qu'elle est à bord. Donc voilà, c'est le grand apport de la connaissance des encéphalines, c'est... à quoi bon prendre très cher, avec tous les risques que ça comporte, des substances ou d'avoir des actes complètement fous, comme aller courater le long des autoroutes, quand vous pouvez finalement prendre votre pied en faisant du sport, mais quand même pas exagérément. Alors bien entendu, à l'autre bout, c'est le marathon. Et les marathoniens, là aussi, font quand même 42 bornes en 2 heures, théoriquement, ça c'est l'idéal, quoi. Mais tout le monde n'est pas issu de la corne de l'Afrique, quoi. Hein, et donc, du coup, voilà. Et tout le monde ne vit pas à 5000 d'altitude. Et donc, voilà, si on veut le faire tranquille, il faut se donner les moyens. Et puis surtout, il y a une règle. J'ai rien contre le marathon. Moi, j'ai jamais couru, mais enfin, c'est de s'entraîner, quoi. Hein. Alors, on commence par 5 km, et puis 6, puis 7, puis 8, puis etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 50, et même 60, et quand vous avez couru pendant 60, 42 km, ça ne vous fait pas peur. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai toujours utilisée en vélo, hein, c'est-à-dire, bon, ça se programme, un entraînement, c'est-à-dire, bon, il faut bien sûr avoir la tête bien faite, bien remplie, mais il faut aussi avoir la musculature qui puisse être à la hauteur de l'exploit. Voilà, c'est un acte intelligent, mais qui peut être perverti si vous allez dire « Oh, bah tiens, c'est le marathon de Paris ou le marathon de New York, bah, je m'inscris », alors que vous n'avez même pas des godasses ad hoc. C'est complètement crétin, quoi, hein, c'est sûr. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes arrivé sur la ligne d'arrivée et que vous êtes effondré dans la pelouse, c'est vrai que vous avez un bonheur fou, quoi, hein, que du coup vous êtes prêt à recommencer quand vous aurez soigné votre arthrose, et vous aurez fait remettre une prothèse de la hanche pour compléter la panoplie. Voilà, donc le sport intensif a du bon, mais quand il est utilisé intelligemment et modérément relativement, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas de limite si on le prépare. Mais comme actuellement on n'accepte aucune contrainte d'aucune sorte et qu'il y a une impatience féroce, il faut faire tout de suite et n'importe comment. Alors vous voyez, même des guides patentés qui vont faire du hors-piste, alors on sait qu'il y a les avalanches, toute la météo vous le dit en long, en large, en travers, eux-mêmes qui mettent les piquets et pfff, ils y vont, ils entraînent leurs clients. C'est vraiment un monde de fous, quoi, hein, là, en gros. Voilà, le sport intensif, c'est assez étonnant. C'est-à-dire, ça peut être la meilleure et la pire des choses, quoi. Alors, le travail, ben, c'est la même chose. Alors, c'est pas le travail, hein. Travailler plus, machin, c'est pas ça dont il s'agit. C'est les gens qui sont tellement malheureux chez eux, probablement, ben, ils restent au travail, quoi. Et puis, ils relèvent pas le nez. Et si jamais ils doivent rentrer quand même, ils ont toujours 25 dossiers, et jour et nuit, machin, quoi. C'est ça, là. Et sans que la boîte soit en train de faire faillite, parce que là, bon, à la limite, on peut comprendre que, bon, c'est un petit peu juste, il faut vraiment que, je sais pas quoi, on a un chantier à finir. Non, c'est pas ça. C'est que, ils sont au boulot, et puis, boulot, quoi. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Alors là, c'est donc un travail compulsif, hein, c'est pathologique, quoi. C'est-à-dire, et puis, c'est pas une fois, c'est endémique, en quelque sorte. Alors, il en va de même, toujours, avec ces achats. Alors, c'est pas le fait d'acheter, hein, mais c'est ces achats compulsifs. C'est-à-dire ces achats qui sont finalement le plaisir. Puisque c'est toujours du plaisir qu'on recueille. C'est des plaisirs d'acheter. Une fois acheté, le produit désintéresse, en fin de compte. Et donc, du coup, comme c'est désintéressé, ben, il faut recommencer, quoi. Voilà, et ça signe bien le fait que c'est pas le produit qui est convoité, médité, économisé ou je sais pas quoi, qui est une position un peu anale, là. Non, c'est le fait de passer à l'acte qui est important. Et que du coup, ben, comme il y a une insatisfaction sitôt la conduite tenue, ben forcément, il faut recommencer pour remettre en tension. Ben voilà, je relirai, si vous voulez, les 10 commandements de la dictode pour retrouver tout ça. Alors, notre élément qui est très important aussi, c'est l'ordalie. Alors bon, c'est un terme générique. Bon, il était assez utilisé il y a une vingtaine d'années, puis il est un petit peu tombé en désuétude, mais moi je l'aime bien, c'est un joli mot, et qui, en gros, était tenter le diable. Tenter le diable, c'était au Moyen-Âge, au moment des tournois, ou bien au moment des grandes inquisitions, on demandait, on faisait appel à Dieu pour savoir si l'homme était coupable ou pas. Alors on le mettait dans des situations invraisemblables, comme il devait empoigner des barres de fer chauffées au rouge, quoi, ou passer à travers des brasiers, ou tout un tas de choses réputées impossibles. Hein. Si jamais il en sortait, ça faisait comme Jésus-Christ, là, qui traverse la mer rouge, là, sans se mouiller les pieds, là, hein, en gros, ou à peu près l'équivalent. Hein. Et donc, du coup, bon, ben, Dieu était venu en aide, donc... Il était donc innocent. Voilà. Bon, il avait le péché originel, mais enfin, quand même, il était innocent. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Alors, je reviens là, toujours à cette période de l'adolescence, qui est très propice pour ces mouvements ordaliques, hein, ou ces comportements, ou ces conduites ordaliques. On est dans la toute-puissance, parce que nous sommes, en quelque sorte, on va dire, les cavaliers de Dieu, là, comme le dit ce film là qui vient de sortir là il n'y a pas très longtemps, sur justement une préparation à des attentats suicides en quelque sorte au Maroc, en somme. Hein. Et donc, du coup, on est prêt au combat, à la mise en danger, à la prise de risque, bien entendu. Alors bon, ben c'est ce qu'on a. On voit souvent, hein, tout un tas de conduites complètement folles d'un point de vue de la rationalité, des excentricités de conduite de voiture ou de moto ou de mobylette ou de je ne sais quoi sur une roue de préférence, etc., etc. Ou bien, je sais pas, une époque, c'est Gen Z et cette génération qui se marrait sur une plage, deux voitures de sport, hein, qui se fonçaient dessus, puis au dernier moment, on faisait un écart, bon, si c'était du bon côté, ça allait, sinon, hors d'Ali, voilà, c'est tout, vous étiez hors de nuire, quoi, en somme, hein, voilà. Bon, alors vous en avez, mais à l'appel des choses comme ça, maintenant, là, on se blinde complètement à l'alcool, et puis on s'en va plonger dans n'importe quelle rivière pleine de cailloux, quoi, en gros, ou... Le seau est élastique sans élastique, etc. Enfin bon, vous avez la panoplie, elle regorge, quoi. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Et maintenant, on commence à mettre un petit peu dans le même sac les tentatives de suicide, là, en gros. Alors bon, bien sûr, il y a toujours récidive, c'est répété. Et donc, du coup... Ça questionne, quoi, en gros. Alors, par chance, les adolescents laissent en général des signes avant-coureurs par rapport à CTS, qui fait qu'il y a quand même la possibilité d'intervention sur le fil. Du coup, c'est pas forcément un suicide, c'est une tentative de suicide jusqu'à la prochaine fois où, pas de chance, la mère n'a pas vu l'avalanche d'échantillons de comprimés de benzodiazépines et autres, en gros. Et puis, alors, toujours dans la même rubrique, hein, les jeux. Alors, les jeux, Dieu sait si les jeux, c'est important, c'est à la base de l'esprit. Hein. Mais on parle des jeux qui sont là aussi compulsifs et hors normes. Hein. Donc, les jeux de hasard et d'argent... Alors le casino, par exemple, ou bien ce que l'État pousse apparemment pas mal, le PMU, la Française des Jeux et autres, et poker sur Internet, etc., etc. Et là, à nouveau, il y a une hubris, comme il était dit dans l'Antiquité, hein, c'est-à-dire une ivresse où il n'y a plus moyen de réguler quoi que ce soit. Et puis enfin, le dernier... une des dernières items, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, parce que plus vous lisez, plus vous en rencontrez, c'est presque trop, mais enfin bon, c'est le cyberespace. Voilà, alors la cyberdépendance, qui maintenant ça s'appelle même directement cyberaddiction, sous toutes ses formes, et bien sûr, on commence à trouver les séries TV sur Internet, là, les web-séries, les jeux vidéo, les jeux en réseau, les réseaux sociaux, etc., etc., qui amènent alors des nouveaux comportements qu'il faut absolument presque maîtriser. Quoi. C'est important de le connaître pour pouvoir aider un peu les gens qui peuvent être victimes. Ça peut aider soi-même, mais c'est aussi les victimes. Alors bon, voilà, je vous ai décrit ça, ben on va essayer d'en voir quelques-uns. Hein. Voilà, là, bon, vous reconnaissez l'enseigne célèbre qui a fait des petits, hein, de toute façon, avec tout un tas de copies, Quick et compagnie, bien sûr, par rapport à la nourriture, hein, et donc là, bien sûr, c'est tout est fait pour être avalé en une bouchée. Et donc, forcément, l'insatisfaction est telle que il faut recommencer. Et alors bon, alors donc du coup, vous voyez les big machins là, hein, qui sont de plus en plus hauts, tels la Tour Eiffel. Et bien entendu, vous avez toujours une insatisfaction patente en quelque sorte. Hein. Bon, je sais pas, j'ai pas la peine d'insister trop, mais simplement, peut-être juste, une toute petite incise. Pour réguler la quantité de nourriture, on a un système très très perfectionné qui analyse la composition exacte de la nourriture. Et c'est l'olfaction qui est capable de faire ça. Et là, comme c'est une production industrielle, bien entendu, tout est frelaté, hein, tout est hypocrite, tout est calculé pour justement augmenter la consommation. Donc du coup, ce sont plus des produits, on va dire, je n'ose pas dire naturel, mais, je ne sais pas, une tomate. La tomate qui est là, je ne sais pas très bien, elle doit être produite en Hollande. Et donc, oui, non, je n'ai rien contre la Hollande. Mais enfin, bon, c'est le plus gros producteur au monde de tomates, je crois. Hein, parce qu'ils ont mis au point les serres et tout ce qu'il faut. Bon, voilà. Alors du coup, c'est rond et rouge comme une tomate, une vilaine tomate en tout cas, parce qu'une tomate ça doit être difforme. Ça peut être rouge, mais ça peut être vert, ça peut être jaune, ça peut être à peu près toutes les couleurs sauf bleu. En gros, c'est comme les roses, quoi, en gros. Voilà. Et du coup, le pain, c'est pas du pain, bien entendu, c'est du pain à risque, hein, à risque, quoi, en gros. Hein. Et donc, du coup, vous l'avalez, et du coup, le système olfactif est berné en disant, mais il n'y a pas une trace ni de sucre, ni de gras, ni de protéines. Bon, ben donc, il faut encore, more and more and more. En somme, hein, voilà, c'est tout le but est là, hein, tout l'artifice est là. Alors, bien sûr, les conséquences, vous les connaissez, il n'y a pas de souci. Vous voyez où ça mène, hein, ça mène en Belgique tout droit. Là, c'est sûr que ça déborde et qu'il va falloir faire quelque chose. Je pense, hein. Bon, alors, je vous dis, c'est très difficile. Alors bon, on voit beaucoup de reportages là aussi. Alors on met des anneaux dans un premier temps sur l'estomac. Bon, et puis quand c'est vraiment too much, comme on dit traditionnellement, ben il faut à ce moment couper les deux tiers de l'estomac. Quoi. Alors, seulement vous avez un estomac rikiki, alors du coup, l'effet de satiété est plus vite là, et du coup, on réduit un peu, mais bon, c'est incroyable. Ces reportages que j'ai en tête, c'était donc des rescapés de ces chirurgies, et qui donc essayaient d'être réinsérés. Donc, il y avait une bonne dizaine, si pas une quinzaine de patientes là, et qui donc faisaient, je crois, 100, au départ 150-200 kilos, quoi, et que du coup pour les réinsérer, ben, on a organisé un petit circuit qui devait, je crois, faire 4 kilomètres. Bon, toutes n'ont pas pu le faire, quoi, du coup, mais déjà, marcher quelques centaines de mètres, c'était apparemment un exploit pour ces femmes, quoi, que du coup, on dit, bon, il y a longtemps qu'il doit y avoir besoin de faire du sport, quoi, enfin, je veux dire, c'était en amont, quoi, hein. Là, c'est quand même difficile, quoi. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Ah, mais non, je comprends. Alors, bien sûr, l'inverse, quoi, hein, là, bien sûr. Alors, l'inverse, c'est donc l'anorexie dite mentale. Donc, en gros, ce qu'on peut arriver à comprendre, c'est que la personne, c'est surtout, je crois qu'il y a 90% de filles et puis quand même 10% de garçons. Donc, c'est toujours à cette période de l'adolescence que ça se joue et on a l'impression que la faim doit être surmontée et que par, je ne sais pas si c'est une structure masochiste ou quoi, mais c'est cette tension de la faim qui est convertie en plaisir. Voilà, donc, comme s'il y avait un masochisme forcené et que du coup, alors, il y a tout un tas d'études qui ont été faites hein, sur, justement, l'image du corps. Et on leur demande simplement de se représenter par des schémas, un petit peu. Alors, bon, il y a maintenant des artifices où c'est très facile de faire un avatar et puis de se mettre comme on veut, voilà, hein, comment on se représente. Et alors, elle se représente. Enfin, la plupart du temps, les filles de ce type-là, se représente comme la précédente. Là. Je vais essayer de la revoir. Voilà. C'est-à-dire, je triche juste un tout petit peu, on leur demande de faire leur autoportrait, en quelque sorte, et puis on demande si elles peuvent passer par telle porte. Voilà. Et là, boum, elles se cognent chaque fois, alors qu'elles sont ce qu'on appelle brindilles, quoi, en gros. Hein. Voilà, alors donc, bien entendu, ça veut dire que c'est bien l'image du corps qui est complètement déformée, comme si elles étaient tout le temps en train de se voir dans un miroir déformant, et que du coup, ben justement, c'est jamais assez. Donc du coup, même en faisant 35 kilos, on va dire, c'est encore trop gros. En gros, alors bien entendu, je crois que c'est en Espagne qu'il y a eu une réflexion qui a été menée avec une prise de décision d'interdiction des défilés de mannequins qui faisaient moins de, je ne sais plus combien, qui déjà est déjà une barrière déjà très, assez stricte, hein, on va dire, et que du coup l'Italie a suivi. Et par contre, alors là, la Grande-Bretagne s'en est contrebalancée, et donc a organisé la Fashion Week, en gros, avec tous les mannequins qui étaient refusés dans les pays latins, ont rappliqué in London, en quelque sorte. Hein, voilà. Alors bon, là, l'image est pas très bonne, mais ça vous donne un petit peu une idée de comment ça se passe. Donc ça veut dire que là aussi, pour ne pas manquer des ventes, on est prêt à sacrifier les mannequins, en quelque sorte. Et au-delà des mannequins, bien entendu, c'est l'idée de la mode. Et l'idée de la mode, c'est l'influence des jeunes adolescentes, surtout, hein, je reste au féminin, parce que c'est surtout ça qui a un gros impact, et donc ben, ça vous donne des générations de filles qui se font des régimes épouvantables, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison, etc. Et après, la chirurgie esthétique prend le relais, et autres, parce qu'il y a toujours des échappements, en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire, bon, on passe du problème individuel à un problème de société très facilement, et bien entendu. Alors bon, il y a un texte aussi qui a passé, là, sur justement la légalisation du travail domestique. Alors, Plantu a commis ce petit dessin, là, donc. Donc, c'était marrant de voir les femmes de ménage là, qui font la salle 2007, je crois, ou 2008, je ne sais plus. Et donc, bon, voilà la psychopathologie, comment reconnaître une addiction sexuelle, hein, avec un certain nombre de critères qui font blêmir, mais bon, ok. Voilà, alors le bodybuilding. Voilà, alors là, maintenant, tout le monde est bien d'accord que pour faire ce bodybuilding, il s'agit de renforcer l'estime de soi, quoi. C'est-à-dire, bon, on est baraque, on peut se lever 200 kilos, et etc., quoi. Bien sûr. Alors, bien sûr, dans tous ces éléments, que ce soit le foot, donc, comme vous le savez, les courses de chevaux, ou le poker, tous ces jeux, en quelque sorte, ben, en fin de compte, provoque des spéculations. Alors bon, ça va jusqu'en Chine, hein, les spéculations sur les différents clubs. Et donc là-bas, là, je vous donne juste ce qui est 680 matchs de football potentiellement truqués, 425 joueurs, arbitres et criminels impliqués. Tel est le résultat de l'enquête menée par Europol, révélée le 4 février de cette année. Hein, là, c'est sur le monde d'hier, hein, ça, donc, voilà, etc. C'est-à-dire, bon, ça prend une dimension, là aussi, infernale. C'est-à-dire, ça dépasse vraiment les individus. On comprend pourquoi tout un tas de paris peuvent être ouverts sur Internet. Parce que là, c'est justement, c'est ça, la globalisation. Alors voilà, beaucoup de psychiatres se préoccupent de ces questions. Et voilà un, là, dont j'ai le visage, c'est Michel Reynaud, donc qui s'occupe vraiment des addictions, qui est auteur d'un traité d'addictologie, d'une part, et puis qui a écrit un livre qui s'appelle « L'amour est une drogue douce en général ». Et voilà une phrase qu'il dit « Plutôt que de gérer une émotion difficile, le sujet addict se met en quête d'une sensation maîtrisée, au moins dans les premiers temps. » Voilà, hein, c'est-à-dire il donne exactement le problème. Alors, ça s'applique absolument à toutes les addictions. C'est que la personne qui supporte ces addictions, finalement, ne recherche qu'une chose, finalement, c'est des sensations, et des sensations fortes. Est de plus en plus forte. Hein. Donc il est dans le quantitatif en quelque sorte. Et s'il n'a pas ces sensations, ou s'il y a un petit coup de blues, alors à ce moment il a un mal-être qui commence à apparaître. Et pour juguler ce mal-être, alors il pratique cette conduite, parce que ça, il le contrôle relativement bien. Et donc du coup. Voilà, ça peut devenir des prédateurs et tout un tas de choses. Hein. Alors bon, là, une série, vous reconnaissez, je pense, l'animal, en somme, là, Claire Chazal, donc, qui interviewe quelqu'un. Alors un autre, là, BMF TV, là, bon, là aussi, encore probablement un prédateur, là, qui... au ministère de la Santé, c'est illustré là, dans le gouvernement Rocard avec Claude Évin et qui donc apparemment a pu récupérer pas mal d'argent, donc en tripotant probablement les contrats avec la Sécu ou avec je ne sais quoi, enfin bon, vraiment, un coup de Trafalgar quoi, hein, en gros. Et alors bien sûr, il y a une grande analogie entre les deux scènes là, qu'on voit, hein, c'est la contrition. Le repenti, là, l'enfant prodigue en quelque sorte, hein, deux têtes qui dépassent toutes les autres finalement, et puis là un troisième, là aussi, toujours dans la même série, ben là c'est Lang Armstrong là, qui justement a fait quand même fait le coup de 7 Tours de France avec un cancer, cancer du testicule, on me dirait, hein, bon d'accord, mais bon. Alors la question quand même là aussi, bien, au point de vue individuel, il faut déjà le faire, même camé à mort, il faut déjà le faire, mais que tous les comités olympiques, machin, tout le système médical n'ait pas pu détecter de l'OPO dans les petites burettes qu'on demande, là, franchement, là, à qui on va faire croire ça, hein, c'est pas possible, quoi, hein, c'est... Non. Alors après, il peut faire son acte de constriction. Ça, c'est bien certain. Voilà. Alors là, les trois donnent exactement les problèmes de l'addiction. Là. Voilà. Alors donc, voilà les tatouages et tout le reste que vous trouverez donc éventuellement dans cet ouvrage là de Xavier Pomereau. Nosado.com, hein, et là voilà les scarifications. Donc là aussi, c'est un autoportrait d'une jeune fille de 17 ans, là, dans ce centre près de Bordeaux, qui fait des choses assez remarquables. J'ai une image qui va le donner. justement. Et puis, alors, là, c'est plutôt les achats compulsifs, hein, mais revus à la lumière de la cocaïne, si vous voulez, qui sont bien, bien sympathiques. Hein. La consommation est devenue le nouvel opium du peuple. Hein, ça a remplacé le christianisme, finalement, effectivement. Et puis, là, l'enfer des jeux. Hein, alors là, les bandits manchots et tout le reste, jackpot et triple palais et tout le reste, et poker et quinte floche et tout, fourbi, tournée manège. Voilà, et puis enfin, le dernier élément que j'illustre, c'est la cyberdépendance, les différentes formes. Hein, alors j'en donne juste quelques-unes pour méditer, parce que vraiment, c'est incroyable, cet acharnement. Des jeunes adolescents, hein, ça commence jeune et puis il se prolonge. Je crois que les records sont de 40 heures devant l'écran, je crois, de rang. Hein, enfin, vraiment. Et donc, du coup, en plus, ils mangent juste des pizzas et des McDonald's et ils boivent tous du Coca-Cola. Donc, vraiment, ça fait vraiment une zone des tempêtes invraisemblables. Donc, cuicui, hein, bon. Et puis alors le dernier ravage en date, c'est les iPhones, smartphones ou je ne sais quoi, où là alors c'est donc le nouveau doudou là en quelque sorte, qu'on tient comme une peluche et qui permet d'être connecté avec la terre entière, et puis il y a des applications, et puis ceci, et puis cela, et puis toujours plus, hein, des jeux en tout genre, et ces jeux eux-mêmes, les jeunes en question s'identifient complètement, et comme c'est toujours assez étonnant, toujours agressif et autre, forcément, il y a un pétage de plomb, quoi, en gros. Hein, voilà, alors là, ben, là on le voit bien dans ce jeune enfant, qui est sur une console de jeu, avec une fascination pour ce qui se passe, tous les jeux les plus cruels sont disponibles à gogo. Alors il est entouré de peluches, bien sûr, hein, en tout genre, Pokémon et les autres, là encore, et donc tout va bien. Voilà, alors, d'après les auteurs qui analysent ces phénomènes, la violence dans les jeux vidéo est plus spectaculaire que dans beaucoup d'autres spectacles. La puissance du dispositif, il recycle la culture ludique traditionnelle, mais il augmente la puissance de l'expérience. Effectivement, l'écran, et on le voit ici, là, l'écran a une façon de scintiller qui rend l'image très, très aguichante, très joyeuse en quelque sorte, et on peut mettre de tas de couleurs, et je le vois puisque la plupart des images que je vous montre sont des images ternes et que j'avais dans un premier temps fait en transparent avec un rétroprojecteur ou un impact médiocre, et une fois passé par le système de rétroprojecteur, et donc c'est la même chose sur les écrans scintillants, c'est un côté flashy qui fait que c'est nettement plus aguichant en quelque sorte. Hein. Donc non seulement la puissance du dispositif, mais le type d'expérience, pour peu d'action, il envoie beaucoup de retours, de potentialités. On parle d'ailleurs au sujet des jeux vidéo d'expérience de jeu augmentée. Hein. C'est-à-dire même il y a des actions en retour, vous avez des casques, vous voyez en 3D, vous volez, vous courez, vous faites n'importe quoi. Et alors là, c'est vraiment la fascination intégrale, et tous les artifices sont utilisés pour justement captiver, pour pouvoir vendre, retenir le plus possible les consommateurs. Donc c'est Vincent Berry, l'expérience virtuelle, jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo, aux Presses universitaires de Rennes, qui est paru donc en 2012. Vous pouvez le retrouver éventuellement. Voilà par exemple de très jeunes enfants. Alors bien sûr, le problème des jeunes enfants, c'est qu'ils sont face à des écrans, et du coup ils sont, étant fascinés, ils font des heures et des heures qui dépassent maintenant le temps de l'école, et ça a une première conséquence, c'est leur champ visuel qui est complètement rétréci. Alors quand c'est un écran très large, à la limite on peut dire c'est beaucoup plus grand. Mais quand c'est simplement un iPhone, alors ça devient microscopique, et donc du coup, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et en deux dimensions, la plaque, quoi, en gros, contrairement à la vision que nous avons pu avoir, nous, vu nos âges canonique, couraté dans les bois et autres, là il n'en est plus question, hein, c'est terne, hein, grimper après les arbres ou faire toutes les pitreries qu'on pouvait faire dans une campagne ou dans une ville, ça n'a plus rien à voir. Et la vision, alors déjà que les oreilles ont déjà morflé, comme c'est pas possible avec les Walkman et les éléments dans les oreilles, là maintenant c'est la vision qui est complètement atrophiée, et du coup, bien sûr, derrière, la machine à penser, là à peu près ce que ça donne, c'est la suivante, voilà, regardez, la télévision avant l'âge de 2 ans est associée à des retards de langage, retards cognitifs, résultats scolaires plus faibles, troubles de l'attention, avec un temps de concentration réduit. Voilà, c'est-à-dire toutes les facultés cognitives se rétrécissent comme peau de chagrin. Alors, Serge Tistron vous dira l'inverse, hein, dira, voilà, c'est l'ouverture au monde, machin, on peut connaître les gens qui sont aux antipodes, machin. Oui, certainement, heureusement. Je crois que Michel Serres aussi, dans La Petite Poussette, dit c'est extraordinaire les possibles que ça ouvre. C'est vrai, mais le problème, c'est que les jeunes enfants sont otages de choses très rudimentaires. Alors, voyez par exemple Michel Desmurget dans TV Lobotomie, les dessins d'enfants, hein, donc c'est un ouvrage, la TV Lobotomie. Voilà les dessins en question. Donc, ce sont des enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Alors, de l'eau, un lot, le premier lot où ils font moins d'une heure de télévision par jour. Et voilà les dessins qu'ils sont capables de faire. Bon, ils ne sont pas très élaborés, mais enfin, voilà. Comparé à l'autre lot où ils font plus de 3 heures de télévision par jour, voilà, alors vous pouvez les comparer 2 à 2. Hein. Alors, si vous savez interpréter les dessins d'enfants, en gros, plus il y a de détails cohérents, bien entendu, plus la maturité est là, puisque c'est l'image de son propre corps qu'il dessine. Hein. Si c'est un têtard, comme ça a l'air là, avec juste un cil qui se bagnaude, par rapport à quelqu'un qui a un abdomen, qui a quand même bras, pas d'avant-bras, et des pattes, et puis des doigts, ça n'a rien à voir les deux. Hein. Et puis là, c'est la même chose, quoi. On dirait une poule, là, ici, plutôt qu'un autoportrait, puis etc. Enfin bon, ça... Là, vous tombez à la renverse de voir simplement un écart de 2 heures par jour entre les deux. Donc, d'accord, la télévision vous éveille l'esprit, ça c'est vrai. Vous savez tout sur les marques, et les marques deviennent impératives, et donc du coup, les enfants deviennent prescripteurs. Regardez la télé, c'est écrit tout noir sur blanc, quoi. C'est-à-dire, c'est des enfants qui décident quelle bagnole il faut acheter, quoi. C'est simple comme bonjour, quoi. Voilà, ben oui, le problème c'est que là, l'âge mental, il est plutôt de 18 mois, plutôt que de 6 ans, quoi, en gros. Et donc voilà, là c'est sur le monde d'aujourd'hui, d'hier, hein, pardon, voilà, la cybergénération, voilà, donc au lieu de téter, finalement, il vaut mieux qu'on offre des tablettes au baby, en quelque sorte. Alors bon, ça se pose la question, est-ce que à l'école maternelle, il faut mettre des tablettes ou pas, quoi, hein? Là, bon, vous entendez de ces délires tous les jours, hein, par les sommités, invraisemblables, quoi. Alors bien entendu, il y a tous les vétérans de toutes les guerres, hein, de toute façon, vous savez que quand on rentre d'une expédition, on est complètement addicté à tout un tas d'actes féroces, quoi, en gros, c'est-à-dire, bon, sinon vous seriez mort, quoi. Donc, du coup, alors ça, c'est bien entendu des idoles, je pense à Full Metal Jacket, hein, qui donc devient des films cultes, puis ensuite on en fait des séries, et puis on en, etc., etc., vidéo, bien entendu, et donc tout ça fait le marché des armes en vente libre, au moins aux États-Unis, hein, et donc là on a vu les derniers avatars, pas possibilité de changer quoi que ce soit, et donc des fusils mitrailleurs à des mineurs, quoi. Alors là, si c'est pour faire des cartons, ils font des cartons dans les collèges, quoi, hein, les lycées, et du coup, ça devient des serial killers, quoi. Voilà. Donc du coup, ça aussi, j'avais fait une petite incursion la première fois sur le marché de la drogue, hein. Là, quand on voit le marché des armes, les mêmes causes entraînent les mêmes effets, quoi. On ne bouge pas une manette, hein. De même, le marché de l'alimentation, on ne bouge pas, même si on sait qu'on pourrit complètement toute la population. De même, ceux qui fabriquent les cigarettes, de même, tous les trusts ne changent rien à leur politique. Il n'y a aucune raison, d'aucune sorte. C'est la même chose, et donc là, les héros vont donner lieu à des films et à des jeux vidéo. Alors voilà, je reviens à ce qui se passe au centre Abadi, là, avec ces jeunes personnes qui sont en difficulté, bien souvent pour anorexie et boulimie, mais surtout anorexie. Là, Xavier Pomereau a trouvé une façon d'apprivoiser ces jeux vidéo qui font donc fureur. Et il parle dans son ouvrage, nosado.com, mais il a fait d'autres où il l'explique mieux. Et il utilise les jeux qui s'appellent les Sims. Et ces Sims, c'est possible de faire un avatar. Et donc chaque adolescent est ravi de faire son avatar. Et donc il peut se donner un visage, il peut se donner les habits, la corpulence qu'il veut. Et du coup, c'est possible de se mettre à parler de l'avatar. Elle parle pas d'elle, mais elle parle de son avatar. Et de ce fait, une thérapie peut à ce moment se mettre en route, quoi. Et donc du coup, je trouve que c'est une astuce extraordinaire d'utiliser ces techniques, donc, qui sont addictives, mais pour les sortir d'une autre addiction plus dramatique pour elles, puisqu'elle refuse de s'alimenter en quelque sorte, hein. Alors bon, là aussi, je crois qu'il va falloir que je m'arrête. voilà, là on revient avec des souris cette fois, hein. Alors on a fait beaucoup de choses. J'ai même participé à une époque dans ma jeunesse d'élever des animaux en isolement. Ça, ce sont les témoins en quelque sorte, comme ça, dans une cage qui a cette taille à peu près, comme ça, et à peu près cette hauteur. Donc la souris est toute sa journée seule, elle se morfond, elle a ses galettes et son biberon, puis c'est tout, quoi. Et puis en dehors de ça, on a la même cage, ou même un peu plus grande, où elles sont plusieurs et elles ont une multitude de jouets. Alors bon, c'est un peu anthropomorphique, c'est-à-dire c'est une vision un peu de l'humain, hein, mais il n'empêche que les souris peuvent passer d'un compartiment à l'autre, entendre de la musique, etc. Moi, je les caressais, hein, et donc du coup, ça revient à la même chose. Et alors, c'est incroyable comme ça change les choses. Donc voilà que ça donne, hein. Les souris solitaires sont bien plus sensibles aux substances addictives, l'alcool, c'est-à-dire on leur donne deux biberons à choisir, de l'eau et de l'alcool. Quand elles sont comme ça dans ces situations dépressives, en gros, c'est-à-dire c'est un animal social, et donc du coup, déprimées, elles se mettent à préférer le biberon avec de l'alcool plutôt que l'eau. Elles deviennent alcooliques, quoi. Lorsqu'elles sont élevées dans un enrichissement pauvre en stimuli, donc stressant pour elles. Voilà. Et puis, pour ces souris-là, qui ont un bien plus joli poil, milieu enrichi, donc, les souris en communauté, dans un milieu riche en stimuli, résistent mieux à l'addiction des drogues. Et donc, du coup, la vie en société, la vie en communauté, et surtout la possibilité de courir avec des roulettes, des roues là qu'elles ont foutues en l'air, mais on peut les rétablir, etc. Elles ont une activité, cette activité leur donne du plaisir, et du coup, elles sont moins sensibles à des sollicitations du milieu extérieur, et elles se détournent de l'alcool, quoi, carrément, et puis quand elles peuvent éviter la morphine de la même façon. Voilà, alors bon, si je pouvais en quelque sorte donner un petit peu une lecture d'un condensé d'un ouvrage d'Éric Launis, qui traite de l'écologie de l'action, hein, qui donc. Mais ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Je vais peut-être répondre aux questions, si vous voulez bien, pour pas trop déborder.